France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Philippe Bellaval.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes le président du Centre des Monuments Nationaux et nous vous recevons ce soir dans cette cave innovation parce que le Centre des Monuments Nationaux lance demain un appel à candidature pour constituer un incubateur de start-up. Alors peut-être, avant même de détailler les raisons qui vous ont poussé à lancer cet incubateur, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est le Centre des Monuments Nationaux à ceux qui ne le sauraient pas ou ne sauraient plus exactement ?
Le Centre des Monuments Nationaux, c'est l'établissement public du ministère de la Culture qui gère une centaine de sites historiques répartis sur toute la France. C'est l'ancienne caisse des monuments historiques et nous nous occupons de lieux comme l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Sainte-Chapelle, Château d'Angers, le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne et plein d'autres, plus de 100.
Et tant d'autres, justement, qui ne sont pas des musées, qui sont des monuments nationaux. Alors, vous lancez cet incubateur de start-up, on va voir qu'en fait, vous avez déjà pas mal expérimenté des choses avec des start-up, parce que, notamment, la France reste quand même un pays leader, et vous gérez ces monuments qui sont, pour certains, extrêmement visités, pour d'autres, moins. On va voir d'ailleurs que c'est l'un de ces enjeux. Mmh. Et vous lancez donc cet incubateur. Ce n'est pas d'ex nihilo que vous lancez ça, vous avez déjà travaillé sur des espèces d'applications ou des solutions. Oui. Avec des start-up. Depuis 2014, je crois, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce type de collaboration et lesquelles peut-être ont marché ou vous ont séduit ou vous ont montré que vous aviez des besoins ?
Écoutez, on a travaillé dans des directions assez différentes hein, avec ces start-up. On a travaillé sur les services liés à la visite directement, visite du monument, application de visite, visite à distance, réalité augmentée. Et puis on a travaillé aussi sur des services périphériques, comme par exemple la mobilité ou la gestion des files d'attente.
À Notre-Dame, oui.
La visite des tours de Notre-Dame est une visite très populaire et par conséquent, il y a un problème de gestion de file d'attente. Donc, dans tous les cas, on a trouvé le bilan positif et on s'est dit au bout d'un moment qu'on ne pouvait pas se contenter d'être des consommateurs, en quelque sorte, de la créativité des start-up, mais qu'il fallait faire un pas de plus, il fallait entrer de plein pied dans la sphère numérique et les aider à développer, les inciter à développer des produits qui pourraient ensuite nous être utiles.
Parce que justement, ces startups avec lesquelles vous avez travaillé, on parle souvent ici dans France, dans Soft Power, on parle de la French Tech avec des villes, des domaines entiers, évidemment, la santé, l'administratif, qui sont couverts comme ça, qui sont très organisés. Vous travaillez avec des startups qui ne font pas forcément que ça, qui ne s'intéressent pas au patrimoine. Il manque peut-être ce volet, alors qu'on est quand même, la France, un pays de patrimoine et de tourisme, qu'on reste quand même le pays le plus visité du monde. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à faire.
Bien sûr, mais si vous voulez, par exemple, les startups qui ont travaillé avec nous sur des applications de visite à distance, elles ont aussi travaillé au départ dans le monde hospitalier, justement pour permettre à des malades ou à des enfants hospitalisés de parler avec leur famille, d'être en contact avec leurs proches, etc. Donc, le patrimoine, c'est pas nécessairement un monde à part. Il y a comme ça des applications qui peuvent être transversales et des applications développées dans le secteur du patrimoine peuvent être utiles aussi à d'autres activités.
Alors vous lancez cet appel à candidature de manière plus précise, même si vous avez donné des exemples ici. Vous pensez que ça peut marcher ? À quel moment le numérique, à quel endroit de cette visite du patrimoine, ou en amont ou en aval, est-ce qu'il y a des vrais défis, des vrais besoins peut-être en matière de numérique ?
Oui, tout à fait. D'abord, en amont de la visite, parce qu'on est maintenant par rapport, notamment, on a des monuments avec une très forte fréquentation internationale. Si on n'est pas présent dans la sphère numérique au moment où les touristes ou les visiteurs potentiels qui vont venir en France font leur programme, font leurs achats, leurs réservation de visite, etc. On n'existe pas.
Voilà, ils peuvent totalement vous louper parce qu'en plus, on est quand même en France avec cette grande richesse, mais cette grande concurrence. Il y a des gens qui ne savent pas que la conciergerie existe, par
exemple. Voilà, exactement. Donc, on est présent, évidemment, on a des sites internet, un par monument, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur les réseaux sociaux chinois, par exemple, parce que le développement du public chinois est un très grand enjeu. Et donc, notre perspective, maintenant, c'est d'offrir, en amont même de la visite, toute une offre offre qui n'est pas simplement d'ailleurs forcément une offre de visite, mais qui peut être une offre de guide, de vente à distance, etc. Bon, ensuite sur place, évidemment, avec les applications de visite, la gestion des files d'attente pour les monuments les plus fréquentés, parce qu'on l'a fait à Notre-Dame, mais on envisage par exemple d'étendre ce dispositif à l'Arc de Triomphe, qui est un autre monument extrêmement fréquenté.
Et à la Sainte-Chapelle, ce serait pas mal aussi, avec la queue du palais de justice, voilà, qui est compliquée. Hein,
mais il y a un problème structurel, que c'est aussi la queue du palais de justice. Voilà. Mais donc la gestion des files d'attente, les applications de visite, par exemple, on en a développé une qui permet depuis la Sainte-Chapelle de voir les verrières, y compris les scènes des vitraux qui sont très hauts au-dessus des visiteurs, voilà, qu'on peut pas voir. Évidemment, des applications et des informations accessibles dans de très nombreuses langues.
Hein. Ouais, parce et que là, l'enjeu de la langue avec des touristes qui bougent, notamment les Chinois.
Évidemment, mais les Coréens, les Japonais, les Russes, voilà, les visiteurs aiment être accueillis dans leur langue, je crois que c'est extrêmement important. Et puis ça peut être aussi après la visite, pour voir comment on peut établir une relation fidélisée avec les clients et à partir de ça, développer une relation commerciale complète.
Et évidemment, il y a la réalité augmentée, on en a beaucoup parlé, vous avez travaillé, je crois, avec Dassault Systèmes sur l'île de la Cité, il y a eu des choses très très audacieuses, notamment à la Conciergerie, qui est un lieu peu connu mais extrêmement riche en histoire avec des reconstitutions. Ça, c'est des choses qui sont assez séduisantes mais qui coûtent cher. Est-ce que vous avez un budget suffisamment, disons, fourni pour vous lancer dans cette aventure?
C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de ces démarches, de ces applications, si vous voulez, ont été bâties sur un modèle qui était assez peu classique comme modèle économique, parce que nos interlocuteurs des startups et nous, on était en phase expérimentale. Voilà. Et donc, c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle on souhaite franchir une étape et aller de l'avant, parce que maintenant, on n'est plus en phase expérimentale sur ce type-là d'application. Il y a un vrai marché.
Ça marche bien ou pas? Est-ce que ces expériences que vous avez tentées, elles sont opérationnelles?
Le public est ravi. Voilà. Alors simplement, ça marche plus ou moins bien, et ça c'est justement une réflexion que nous devons avoir, selon que c'est inclus dans le prix d'entrée ou selon qu'il y a un supplément. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aussi, c'est que si nous avons des dispositifs qui nous appartiennent ou nous ont été développés pour nous, nous pourrons plus facilement les offrir à très bas coût, en tout cas à un coût diminué au public, et donc assurer une beaucoup plus grande diffusion. Enfin, on est en tout cas à l'entrée d'un monde nouveau. Enfin, bon, je crois que c'est une grande banalité que de dire ça à propos du numérique dans la sphère culturelle. Et si on veut profiter de toutes ces perspectives, qu'offre ce monde nouveau, il faut être de plein pied dedans et pas simplement, si vous voulez, picorer, voir une start-up, trouver une application qui va bien. Il faut véritablement être acteur de plein exercice. Et c'est pour ça qu'on crée cet incubateur.
Incubateur où vous allez recruter 5-6 startups pour
commencer. Oui, voilà, on va commencer. On est la première institution du secteur patrimonial à le faire. Donc il y a quand même un aspect patrimonial. Mais je pense que donc les inscriptions, les candidatures ouvrent demain. Et d'ores et déjà, oui, absolument, www.incubateurdupatrimoine.fr. Et on a déjà eu beaucoup de demandes de renseignements, etc. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste quant à la réponse qu'on recevra.
Et dernière question, vous n'êtes pas un peu seul, parce que c'est très bien, et vous êtes quand même assez gros, vous le sentez, des monuments nationaux, mais est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a d'autres, j'ai envie de dire, alter-ego institutions, qui sont, notamment la Réunion des musées nationaux, quand
même?
Oui, mais
je crois que tout le monde fait des réflexions. Alors, c'est vrai que là, on prend une longueur d'avance, mais un des enjeux, justement, de l'affaire sera de savoir dans quelles conditions et comment on peut partager cela avec d'autres institutions, parce que beaucoup d'applications ont vocation à être partagées.
Oui, et la question des droits, évidemment, est-ce que ça leur appartient à vous, à eux, au grand public, etc., se pose. Merci beaucoup, Philippe Bellaval. Et donc, vous pouvez postuler si vous entendez cette émission et que vous vous sentez concerné.